Oui, le temps chaud et ensoleillé là, incite le monde à se rassembler. Et avec les variants qui sont maintenant dominants, est-ce qu'il faut s'inquiéter d'une montée fulgurante dans les prochaines semaines? Dans son article de ce matin, dans sa chronique de ce matin, Isabelle Haché de La Presse citait un sondage récent de l'INSPQ qui révélait que 49 % des Québécois ayant des symptômes ou ayant côtoyé une personne infectée n'ont pas pris la peine de se faire tester. C'est quand même assez surprenant. C'est un sondage de l'INSPQ. On va parler avec le médecin Dr Gaston Desserre, qui est épidémiologiste à l'INSPQ. Dr Desserre, bonjour.
Bonjour.
Écoutez, on va arriver aux 49 % de Québécois, là, mais juste avant, je lisais le sondage. Globalement, on peut dire que les Québécois respectent, ou en tout cas disent respecter les mesures sanitaires dans les sondages, là.
Effectivement, il y a une grande majorité des gens qui disent respecter les différentes consignes. Il y a des fois certains fléchissements par rapport à d'une période à l'autre, mais globalement, les gens effectivement respectent assez bien les consignes qui leur sont recommandées. Là.
OK. Docteur Desserre, où il y a de place à l'amélioration selon vous là, quand vous décortiquez les sondages?
Ben, en fait, je pense que actuellement, c'est certain que ce qu'on voit, bon, vous parliez du 49% des gens qui se font pas tester, c'est sûr que dans les mesures de contrôle les plus importantes, bon, on dit aux gens là actuellement éviter d'être avec d'autres personnes à l'intérieur, là, d'inviter des gens chez vous, même si c'est interdit, là, il y en a malheureusement un peu trop qui le font. Ceci étant dit, évidemment, un des éléments clés qui est dit depuis le début de la pandémie, c'est quelqu'un qui est symptomatique. Il ne devrait pas circuler dans la population. Il devrait se faire tester et rester chez lui jusqu'à l'obtention du résultat. Évidemment, il y a plein d'affaires qui arrivent qui vont parfois faire que obtenir le rendez-vous ou en tout cas pouvoir réussir à se faire tester puis avoir le résultat, ça a pris beaucoup plus de temps que ce qui était anticipé. Mais malgré ça, c'est clair que si quelqu'un se promène quand il est symptomatique, ben et que c'est la COVID, évidemment, c'est un propagateur qui contribue à la transmission. Fait que ça, c'est un problème qui est présent, je dirais, tout au long de la pandémie, là, à des niveaux variables. Mais ça, c'est certainement quelque chose qui est problématique. Alors, bon, pour les autres choses, je pense que évidemment, je pense que la question de la distanciation, je dirais, tout le monde a bien compris le concept, mais dans l'application, des fois, on se rapproche plus de 1 mètre que de 2 mètres quand on est avec quelqu'un d'autre. 2 mètres, c'est quand même assez long, hein? Et ça, il pourrait peut-être avoir un peu d'amélioration à cet égard-là. Évidemment, je pense que la question du port du masque, est-ce qu'on le porte de façon appropriée? Et alors, souvent, on voit des gens se promener avec le masque en dessous du nez. Ben, c'est certainement pas idéal, mais c'est probablement pas ça qui est la cause de ce qui se passe actuellement, là.
Dites-moi, quant au masque, là, le gouvernement vient d'ordonner aux Québécois de porter le masque dehors quand ils font des activités en groupe. Docteur Desserre, vous êtes médecin épidémiologiste. Les études scientifiques, là, est-ce qu'elles disent qu'à l'extérieur, il faut porter un masque? Est-ce que l'efficacité a été démontrée pour le masque à l'extérieur?
Ben, en fait, je pense que, d'une part, à l'extérieur, le risque d'attraper la COVID, il est beaucoup plus faible qu'à l'intérieur. Ça, je pense qu'il n'y a pas de doute. Tout le monde s'entend là-dessus. Maintenant, la recommandation qui est faite de porter un masque à l'extérieur, je pense qu'elle vient d'un désir de diminuer au maximum la transmission. Maintenant, c'est sûr que si deux personnes se tiennent vraiment à plus de 2 mètres l'un de l'autre, est-ce que le port du masque va changer quelque chose? En tout cas, il n'y a certainement pas d'études qui parlent de cette information-là. Là.
Donc, c'est une mesure symbolique.
Ben, je pense que ça dépend comment on le voit. Ça peut être une mesure symbolique dans la mesure où on dit si je reste vraiment là à 2 mètres de l'autre, qu'est-ce que je rajoute en mettant le masque à l'extérieur? Donc, je suis déjà à l'extérieur, je suis déjà à 2 mètres de l'autre. Bon, évidemment, là, le gain avec un masque est petit. Par contre, la réalité, comme je le disais juste avant, c'est que souvent, les gens qui sont à l'extérieur, bon, ils marchent sur le même trottoir côte à côte. Ben, c'est dur de trouver que les trottoirs sont assez grands au Québec pour avoir 2 mètres entre 2 personnes. Puis, quand on est dehors, ben, on parle, on est à 2 mètres, puis après ça, on se rapproche. Puis donc, à ce niveau-là, c'est, je dirais, le respect est peut-être pas aussi constant que ce qu'on imagine que l'on fait là.
OK. Dans le sondage, puis je le souligne, là, l'INSPQ par le web sont des milliers de personnes, là, donc l'échantillon est assez grand. Il y a des questions sur la perception que les Québécois ont du risque de la COVID, OK? Des questions comme « Je me considère très à risque d'attraper la COVID. Ce sera dangereux pour ma santé si je l'attrape. Je suis inquiet à l'idée d'attraper la COVID. » Écoutez, je suis allé dans la région, les résultats régionaux pour la capitale nationale, le docteur Dessert, OK? Et ce que j'ai constaté, c'est que dans la région de la capitale nationale où le feu est pogné solide présentement, là, ben à peu près systématiquement à toutes les questions, les gens de Québec sont moins inquiets, ont une perception moins grave de la COVID que ce qu'on retrouve, que ce qu'on peut constater à l'échelle provinciale. Par exemple, là, sur « Je suis inquiet à l'idée de perdre un être cher », bon, 70 % au Québec, 64 % à Québec. « Je suis inquiet à l'idée d'attraper la COVID », 50 % à Québec, 60 % pour le Québec. Écoutez, qu'est-ce qu'il y a dans l'eau à Québec qui fait qu'on a moins peur de la COVID?
C'est une bonne question. C'est une vraiment bonne question. Je suis pas capable de... Je fais des analyses de l'eau régulièrement, mais j'ai pas trouvé la réponse dans l'eau, en tout cas. Tout ça pour dire que c'est clair qu'à partir du moment où t'es pas trop inquiet de la COVID, ton incitatif à appliquer de façon rigoureuse les mesures de protection, l'incitatif est beaucoup moins fort.
Si je vous soumets, docteur Dessert, que il y a une radio qui s'appelle Choix à Québec qui met bien souvent des négationnistes de la pandémie en ondes. Est-ce que ça peut avoir un impact, ça, sur la façon dont la COVID est perçue dans la capitale nationale?
Bien, écoutez, je vous dirais ma perception, puis je ne suis pas sociologue, là, mais ma perception, c'est que oui, ça joue un rôle. Mais ça joue un rôle parce que c'est sûr que ça tient... d'une espèce de culture où on dit ben ce qui vient du gouvernement c'est toujours mauvais, c'est toujours charrié, c'est des complots contre nous autres et ça peut être évidemment pour la pandémie, mais ça peut être pour plein d'autres choses. Alors c'est certain que la région de Québec a été abreuvée pendant des années là avec je dirais cette culture-là et ça peut-être être quelque chose qui explique une partie, mais il faut quand même voir dans les résultats que vous mentionnez qu'il y en a plusieurs là, qui continuent à se préoccuper du risque posé par la COVID et ça, c'est heureux. Là.
Oui, je vous dis pas qu'il n'y en a pas, mais regardez à la question « Ce sera dangereux pour ma santé si je l'attrape? » 67 % des Québécois disent « Oui, je suis d'accord avec cet énoncé-là. » 55 % des gens de la capitale nationale.
Non, je ne peux que constater le résultat comme vous le dites. Et pour moi, encore une fois, je pense que la COVID, là, il faut s'enlever de la tête que c'est comme une grippe. C'est une maladie qui est beaucoup plus sérieuse que la grippe et qui a particulièrement comme caractéristique de laisser plusieurs personnes avec, je dirais, des séquelles. On ne sait pas actuellement jusqu'à combien de gens infectés auront de ces séquelles-là qui vont durer là pendant plus qu'un an. Oui. Mais on en a plusieurs là qui traînent des fatigues intenses, des essoufflements, des incapacités à faire de l'exercice parce qu'ils sont vidés là après quelques minutes. Et tout ça, c'est puis on parlait des pertes d'odorat, des pertes de goût, qui heureusement se réparent chez une grande proportion, mais qui est encore présente plus de 6 mois après chez une proportion pas négligeable des gens. Alors moi, je pense qu'il faut vraiment garder en tête que la COVID, c'est pas la grippe, c'est plus dangereux, puis ça laisse plus de séquelles, et il faut vraiment essayer de ne pas l'attraper.
OK, il y a une nouvelle qui a inquiété beaucoup de parents cette semaine quand elle est sortie. Docteur Dessert, là, je vous sors un peu du sondage. Une enfant de 16 ans qui est décédée des suites de la COVID, est-ce que c'est une aberration statistique? Ou est-ce que c'est quelque chose qui ressemble plus à une nouvelle tendance qui est causée par les variants?
Ben, je vous dirais que je ne penserais pas qu'on est rendu dans une tendance, mais c'est clair qu'actuellement, on a une vraie tendance à avoir des cas qui sont plus jeunes, qu'on voit être admis à l'hôpital, puis avoir des maladies graves. Évidemment, jusqu'à maintenant, des décès chez des personnes de moins de 20 ans, il y en a eu très, très peu. Est-ce que avec les variants qu'on voit être plus virulents, donc qui causent des maladies plus fréquemment graves, est-ce qu'on pourrait avoir plus de décès chez les plus jeunes? C'est possible. Heureusement, on s'attend à ce que ça soit très, très, très limité.
OK. Je vous amène sur un autre terrain, là. Souvent, le politique, Dr Deserre, nous dit, bon, la santé publique nous a dit A, la santé publique nous a dit B. On s'appuie sur la santé publique. Vous êtes à l'INSPQ, l'Institut national de la santé publique. Quand le politique nous parle de la santé publique, là, il parle de qui exactement?
C'est une très bonne question que vous posez. Parce que la santé publique, c'est un ensemble d'institutions. Alors, par exemple, l'Institut national de santé publique auquel j'appartiens, notre rôle, c'est de dire, de sortir les données scientifiques pour dire au ministère, voici ce que la science nous dit actuellement au niveau de l'information. Puis à partir de là, ben, il faut que vous fassiez vos choix. Maintenant, les choix, si on dit, si vous prenez la stratégie A, vous allez avoir tel avantage, mais vous allez avoir tel inconvénient. Puis si vous choisissez la stratégie B, bien, ça va être un autre ensemble de bénéfices et d'inconvénients. Après ça, bien, il y a évidemment les gens des directions de santé publique. Dans chaque région du Québec, il y a un directeur de santé publique et une équipe de santé publique qui veille à mettre en place les mesures de santé publique pour la région, à adapter les choses à la région. Et au niveau du ministère, il y a une direction générale de la santé publique qui, elle, s'occupe de développer des programmes pour le Québec. Et ça, donc, ça fait partie du ministère. Les deux autres organisations sont en dehors du ministère. Alors, quand on parle de la santé publique, bien, évidemment, il peut y avoir des voix là, qui ne disent pas toutes la même chanson et on n'est pas nécessairement tous à l'unisson. C'est un peu ça les différents intervenants là, qui sont dans le tableau, en plus de évidemment des universitaires qui travaillent dans le domaine de la santé publique, qui eux aussi peuvent avoir leur opinion et évidemment la rendre publique.
La semaine passée, l'INSPQ a sorti une déclaration là, qui contredisait complètement ce que le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, avait prétendu à propos des tests de qualité de l'air. Est-ce que c'est arrivé souvent que l'INSPQ ait à dédire ce que le politique avait dit?
Bien, je vous dirais que généralement, quand l'INSPQ fait du travail, transfère l'information au ministère pour qu'il nous demande « Pouvez-vous nous donner votre avis là-dessus? » Bon, alors on prépare le travail, on leur transfère l'information et généralement, il y a une période d'embargo qui peut être d'une journée à quelques jours, là, dépendant du sujet, et après ça, qui va être mis en ligne sur le site de l'INSPQ. Évidemment, par exemple, quand on parlait de ce qu'on anticipait avec les variants, ben, on a mis des données sur ce qui risquait d'arriver là à partir du mois d'avril. On a mis ça déjà, je dirais, pas au début du mois de mars, mais à la mi-mars. Bon, c'est sûr que parfois, je dirais, ce qui a été pris comme décision par la suite, ça reste, encore une fois, la prérogative du gouvernement. Mais, des fois, ce qu'on peut mettre comme travail va pas nécessairement être tout à fait dans le même sens que ce que le gouvernement va décider de faire.
Ouais. Vous, Dr Deserre, vous êtes un peu là à l'INSPQ, un des visages publics de l'INSPQ. Vous allez dans les médias, vous expliquez les données, vous expliquez la science. C'est-tu déjà arrivé que des politiciens vous disent, derrière des portes closes, qu'ils sont pas contents de ce que vous avez dit?
Très rarement.
Mais c'est déjà arrivé?
Très rarement. Pas à moi-même.
Est-ce que c'est arrivé avec ce gouvernement-là?
Je veux dire, c'est sûr qu'il y a des choses que quand on les dit, puis que ça va vraiment pas dans le même sens que ce que le gouvernement... Mais encore une fois, moi, mon travail, c'est de dire, voici ce qu'on voit en termes de risque pour tel groupe ou en termes d'évolution prédictive qu'on peut prévoir en termes de... Maintenant, encore une fois, si le gouvernement décide de prendre des décisions
seconde.
Malgré ça, bien ça, il a le droit. Là.
Mais c'est déjà arrivé que ce gouvernement-là vous a communiqué qu'il n'était pas content de ce que vous avez dit.
Mais je vous dirais, là, exceptionnellement. C'était vraiment, sincèrement, je peux dire que moi, j'ai pas.
Peux-tu vous demander c'était sur quoi?
Non.
Merci, monsieur Dr. Dessert.
Au revoir.
Salut, Dr. Gaston Dessert, médecin à l'INSPQ, épidémiologiste aussi. Il est à 16h22.